France Culture.
France Culture. La Fabrique de l'Information, François Celtiel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Fabrique de l'Information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Et s'il y a bien un homme dans le monde qui impose son récit à chaque seconde et sur tous les canaux, de la télévision à la presse people, aux réseaux sociaux, c'est Donald Trump. Le président américain a fait de sa maîtrise du spectacle une politique, une stratégie pour sidérer et tenter d'annihiler l'exercice d'une pensée critique. Comment le public et les journalistes peuvent-ils à ce titre échapper à ce coup d'état médiatique? L'opération vénézuélienne, avec la capture et l'exfiltration en direct de Nicolas Maduro, en a été une parfaite illustration. Il sera intéressant d'analyser les ressorts de cette mise en scène et de décrypter le flot d'images qui nous submerge et inonde la zone, comme le formule le stratège ultra-conservateur Steve Bannon. Si notre attention est saturée par les émetteurs américains, un territoire semble oublié dans le paysage, le Venezuela lui-même et sa population, dont il est si difficile de recueillir la parole au-delà de la représentation de sa diaspora. Quel est l'état de l'information dans ce pays de près de 30 millions d'habitants et comment parvenir à le couvrir? Il sera également intéressant d'analyser le rôle joué par la presse américaine dans cette démonstration de force trumpienne. A-t-elle encore l'envie ou les moyens d'être un garde-fou? Voici les questions de ce nouvel épisode de La Fabrique de Paris à Washington. Quatre invités pour y répondre. Philippe Corbet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et fin connaisseur de la société américaine. Vous avez été correspondant à New York pour RTL et vous êtes aujourd'hui directeur de l'information de France Inter. Après avoir dirigé celle de BFM TV, vous venez de publier aux éditions Grasset « Armes de distraction massive » avec un Donald Trump en Superman sur la couverture. Vous êtes donc bien placé pour analyser les super-pouvoirs de captation de ce président omniprésent. À vos côtés, Gallagher Fenwick, bonjour.
Bonjour François.
Vous êtes journaliste et ancien correspondant à Jérusalem et Washington pour France 24. Vous êtes un spécialiste des questions internationales et je précise que vous connaissez bien l'Amérique de l'intérieur pour y être né. À distance, Sarah Rodriguez-Louette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en études américaines rattachée à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et spécialiste des stratégies médiatiques des groupes extrémistes identitaires. Votre regard sera précieux pour analyser les contenus propagés sur les réseaux sociaux, notamment par la sphère MAGA. Depuis Washington, où il est le correspondant pour Libération, Benjamin Delisle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en poste depuis la réélection de Donald Trump à Washington et vous avez été auparavant correspondant à Caracas pendant 2 ans, toujours pour le journal Libération. Votre connaissance du contexte vénézuélien sera fort utile. Enfin, une chronique de Courrier International, notre partenaire qui veille et traduit le meilleur de la presse étrangère. Avec vous, Mélanie Chenoir, bonjour.
Bonjour.
Vous allez vous intéresser à 2 pays.
Oui, en particulier la Chine et le Danemark qui ont eu des réactions un peu surprenantes.
On va découvrir ça dans quelques instants. Merci à toutes et tous, cher public, pour votre écoute et fidélité. Vous avez maintenant le programme complet de l'épisode 19 de La Fabrique de l'Information. C'est parti.
L'onde de choc au Venezuela après la capture menée par les États-Unis du président vénézuélien Nicolas Maduro.
Sous mon commandement, les États-Unis ont conduit une opération militaire extraordinaire dans la capitale du Venezuela. L'opération a eu lieu dans l'obscurité. Les lumières de Caracas étaient éteintes, ville obscure, ville mortelle. Mais Nicolas Maduro a été capturé avec son épouse.
Menotté, humilié, filmé sur le tarmac d'un aéroport de l'État de New York, les premiers pas du prisonnier Nicolas Maduro sont hésitants.
Un mot des images que l'on voit en direct, déjà déploiement de force très important, et toujours la DIA, en fait, c'est une opération anti-drogue à la base.
On l'a vu de toute façon depuis le début, la marine, oui, l'armée de terre avec la Delta Force, l'armée de l'air, en fait, toutes les composantes de l'armée, des armées et des agences fédérales américaines ont été mises à profit par Donald Trump.
Il signifie à Nicolas Maduro sa mise en accusation pour narcoterrorisme, trafic de drogue et possession d'armes. Celui-ci choisit de plaider non coupable.
Nous avons besoin du Groenland et nous nous en occuperons dans environ 2 mois. Parlons-en dans 20 jours. Après l'attaque au Venezuela et l'enlèvement de Nicolas Maduro, les menaces de Donald Trump envers le Groenland, qui appartient au Danemark, sont de plus en plus prises au sérieux.
Et au lancement de cette émission, j'en ai même profité pour redonner une nouvelle identité à Gallagher Fenwick, dont le père est américain, mais qui n'est pas né aux États-Unis, même si il y a passé de nombreuses années, de nombreux mois, et qu'il y a travaillé. Voilà, c'est quand même la moindre des choses de rectifier pour éviter qu'une deepfake circule, surtout lorsqu'on va analyser les nombreuses fausses informations qui sont parfois reprises, elles, par la Maison Blanche. Ça va faire de la super télé. Phrase de Donald Trump prononcée dans le bureau ovale face à Volodymyr Zelensky, c'est une des premières citations de votre livre, Philippe Corbet. Tout est déjà là, finalement. Trump est né avec la télévision, il en connaît parfaitement les codes et ficelles. En quoi cette opération vénézuélienne a été pensée comme un spectacle de distraction massive?
Alors, je ne voudrais pas dire que cette opération de capture d'un chef d'État ou d'un dictateur étranger était d'abord une opération de distraction, mais dans la manière dont Donald Trump a construit cette opération ou s'est laissé, d'une certaine manière, guidé par le récit que lui racontait Marco Rubio, qui l'a convaincu au fond, au fil des mois, à considérer Maduro non pas seulement comme le chef d'un État qu'il faudrait écarter, mais comme un narcotrafiquant. C'est ça le récit qu'a imposé Marco Rubio dans l'esprit de Donald Trump. Donald Trump a pensé en amont, pendant et après, à construire aussi le récit médiatique. Et j'étais frappé, j'étais ici à la Maison de la Radio samedi matin quand il y a eu cette opération. On cherchait à envoyer des envoyés spéciaux sur place. Enfin, vous voyez bien, on monte des éditions spéciales. Et j'étais un œil quand même sur Fox News. Et vers 15h hors de Paris, donc 9h hors de New York et de Palm Beach, Donald Trump appelle Fox News, passe en direct dans la matinée de Fox News, au téléphone, comme il a fait des dizaines de fois comme président, mais même avant qu'il ne soit président. Et on l'a vu, Gallagher l'a vu aussi certainement souvent, cette espèce de monologue quasiment ininterrompu, vaguement relancé de temps en temps par le journaliste de la matinale. Et c'est au fond une sorte de récit médiatique immédiat de l'homme le plus puissant du monde qui est d'une certaine manière auto-épaté par ce qu'il vient d'accomplir. Et donc il raconte ça comme un film de... Alors il disait, c'est comme une série télé, j'ai tout regardé, c'était comme une forteresse. C'était un mélange de série télé ou comme dans un jeu vidéo, d'une certaine manière. Et le récit, pour chez Trump, le récit est toujours au moins aussi important que l'action.
Mais ça, c'est intéressant comme un jeu vidéo, Gallagher Fenwick, parce qu'on voit bien que Donald Trump alterne deux positions, à la fois de spectateur de son propre finalement narratif, et en même temps bien sûr l'acteur, puisqu'il se fait passer toujours comme étant celui qui a la main mis sur tout.
Non, bien sûr, c'est fascinant. Il est acteur, spectateur, producteur, diffuseur. Et quand Philippe, à juste titre, disait il est auto-épaté, ce spectacle, c'est pour lui un miroir. Parce que Donald Trump est quelqu'un d'extrêmement narcissique et dans cette mise en scène de la force, il a envie de voir sa propre force qui se déploie de manière hyper puissante, incontestable et d'ailleurs incontestée. Incontesté du point de vue militaire, incontesté, et Philippe le racontait très bien, par ses interlocuteurs, journalistes, qui sont un peu complices, pétrifiés, qui ne relancent pas, qui n'interrogent pas un récit qu'il impose et dans lequel on finit toutes et tous par être enfermé. C'est-à-dire que s'y opposer, parce que c'est quand même très mis en scène et chorégraphié, ces hélicoptères qui transportent un dictateur narcotrafiquant qui passe juste devant la statue de la liberté sur fond de soleil couchant. Si vous prenez le temps d'appuyer sur le bouton pause et de dire ben moi je m'y oppose, vous êtes contre ce qui est imposé, c'est-à-dire il y a des bons, il y a des méchants, il y a du beau, il y a du moche, donc vous êtes pour les méchants et pour le laid. Non, c'est-à-dire que simplement, on doit, et c'est extrêmement difficile quand on est, et vous l'avez dit dans votre introduction, inondé, parce que c'est la technique, il faut prendre le temps, de lever la tête hors de l'eau, de réfléchir à ce qui est en train de nous être imposé, ce à l'intérieur de quoi nous sommes en train d'être enfermés, afin d'introduire des corrections, des nuances, etc. Comme vous l'avez fait au début de l'émission.
Exactement, mais tout ça malheureusement est facile pour moi, mais un peu plus dur lorsqu'on est en continu, une chaîne d'information, et qu'on ne veut pas rater l'événement. Comme vous le dites, les images, elles sont trop belles pour ne pas les diffuser. Et si on ne les diffuse pas nous, peut-être que la concurrence va le faire. Donc toute cette question-là, on va en parler. Vous parliez de bons et de méchants. Sarah Rodriguez-Louette, justement, le méchant dans ce film qu'on nous propose, c'est Nicolas Maduro. Vous avez analysé justement cette posture de méchant, d'adversaire, c'est-à-dire qu'il faut pas le montrer trop faible non plus, ce méchant, il faut le montrer à la taille de Donald Trump.
Exactement, c'est-à-dire qu'on le voit, il est maîtrisé, mais il est maîtrisé avec contrôle. Il est maîtrisé avec contrôle par une unité d'élite. Donc ça, c'est déjà très important, c'est de se positionner non pas comme une force brutale, mais comme une force de civilisation, puisque le terme de civilisation revient maintenant de manière omniprésente dans la dialectique de l'administration Trump. Et cet adversaire n'est pas... Il est humilié dans le sens où il est subjugué. D'accord, mais il n'est pas humilié à la manière d'un Saddam Hussein, par exemple. Mmh. Il reste fort, oui, pour montrer que justement, il était Donald Trump avait un adversaire à sa mesure. Mais on voit aussi dans toutes ces représentations que c'est une victoire personnelle de Donald Trump. C'est ça aussi qui est important. Au-delà des États-Unis, c'est Donald Trump qui a réussi, grâce à des unités d'élite, mais surtout à lui, dans tout ce qui est détournement. C'est comme dans un combat d'homme à homme, finalement.
Mmh, d'homme à homme, et oui, effectivement, et qui dépasse même la question géopolitique de sa propre nation. C'est lui qui arrive. Si on prend un autre parallèle avec Ben Laden, on l'avait dit, on a Barack Obama qui est à l'intérieur de la Maison Blanche. Quelque part, c'est le pays qui arrête Ben Laden avec l'incarnation de Barack Obama. Là, on voit que c'est Donald Trump chez lui, à Mar-a-Lago, qui le fait quasiment tout seul, Philippe Corbet.
Je pense que la comparaison intéressante est effectivement avec Ben Laden, parce que du point de vue américain, et je ne voudrais pas du tout comparer Maduro à Ben Laden pour mille raisons, mais du point de vue du spectateur et du téléspectateur américain, ça rappelait un peu cet épisode-là, c'est-à-dire le président qui annonce qu'un ennemi, même si Maduro n'était pas l'ennemi public numéro un pour les Américains, mais qui annonce d'une certaine manière qu'un ennemi a été mis hors d'état de nuire. Mais c'était très différent parce que, il faut se souvenir, c'était en mai 2011, Barack Obama annonce un dimanche soir à la télévision, enfin depuis la Maison Blanche, en direct à la télévision, que Ben Laden a été arrêté, exécuté et dont ils se sont débarrassés du corps en le jetant dans l'océan. Et donc, ils ont voulu faire en sorte qu'il n'y ait pas d'image, qu'il n'y ait pas de représentation, et aussi parce qu'ils ne voulaient pas que Ben Laden soit un martyr.
Exact.
Et là, il y a l'idée inverse de construire des images, les images des hélicoptères que vous évoquiez, l'image de Maduro, les images de la Statue de Liberté, les caméras des chaînes de New York qui suivent dans les rues de Brooklyn le convoi. Tout ça a été assez spectaculaire. Et j'ai beaucoup repensé à cet épisode-là de comparaison avec Ben Laden, parce qu'il y avait une série télé qui n'a pas eu un grand succès en France, mais qui était faite par Aaron Sorkin, qui a fait la série aussi The West Wing à la Maison Blanche, qui ensuite a fait une série qui s'appelait Network, qui racontait un petit peu les coulisses de la fabrication de l'information. Il y a eu tout un épisode sur, justement, il recréait cette arrestation de Ben Laden, et il y a des questionnements qui se posaient sur comment montrer, quoi montrer, que faire. Est-ce que le journalisme sait de raconter une arrestation en se fiant aux informations données par le pouvoir? Enfin, il y avait beaucoup de questions autour de ça, et là on voit bien que Donald Trump ne se pose pas la question du récit, de la véracité du récit, même si je ne dis pas qu'il a menti dans son récit, mais dans la construction spectaculaire, les tambours sont plus importants que la mélodie, en fait. Mmh. Et là, c'était très frappant. Il a quand même pris un appel quelques minutes après avoir annoncé ça. Il a pris un appel du New York Times. Ça a duré 50 secondes. Mais il prend l'appel de quelqu'un qu'il ne connaît pas au milieu de la nuit et il répond aux trois généralités. Voilà. Et on a bien vu ensuite comment est-ce que, sur d'autres événements moins grands, comment il s'assure toujours de construire sa propre légende, la légende de l'histoire qu'il a, enfin de ce qu'il a accompli. Et en ça, il reprend, et ce que j'essaie de raconter dans le livre, des codes qui viennent des tabloïds de New York, des codes de la télé-réalité, de la télévision de divertissement en général, des réseaux sociaux, là où beaucoup de responsables politiques, Barack Obama en premier, sont d'une certaine manière, ça n'est pas leur langage naturel.
C'est pas leur langage, c'est leur culture.
Non, c'est pas leur culture. Alors que c'est la culture de Donald Trump et c'est la culture de beaucoup d'Américains.
Et sans ça, effectivement, ces images marquent tout de suite, parce qu'il y a un référentiel. Comment on reviendra peut-être sur son mentor, mais depuis Washington, Benjamin Delisle veut réagir.
Oui, non, je voulais suivre ce que disait M. Corbet, parce qu'il y a quelque chose qui est très fort avec Maduro, qui est différent de Ben Laden, c'est que Ben Laden était vraiment l'ennemi public numéro un, et c'était assez facile finalement de saluer sa disparition, alors que là, la manière dont Donald Trump a enlevé Nicolas Maduro, en se fichant du droit international, en s'engageant dans un pays souverain avec une opération militaire assez incroyable. Donald Trump n'a pas laissé le choix à ses opposants finalement de critiquer la méthode en s'attaquant à ce dictateur qui a poussé un quart de sa population à fuir le pays. Et de cette manière-là, il a aussi pris en main le récit puisqu'il a empêché la plupart des démocrates, notamment les anciens présidents démocrates comme Barack Obama, comme Joe Biden, de réagir parce qu'il ne fallait pas passer pour le proche de Maduro, il ne fallait pas passer pour quelqu'un qui défend Maduro, ce qui est reproché d'ailleurs par une partie de la diaspora aujourd'hui à tous ceux qui s'indignent de la méthode avec laquelle Donald Trump a fait chuter ce dictateur.
Justement, là, vous parlez de la diaspora, ça sera intéressant avec vous, Benjamin Delisle, de comprendre comment cette population a pu être instrumentalisée, comment on arrive justement à recueillir ces propos. Avant de donner la parole à Gallagher Fenwick, juste Sarah Rodriguez-Louette, Benjamin Delisle vient de parler à l'instant de, on va dire, la manière dont il a pu justifier cette opération. On a l'impression qu'on est passé du narratif de la légitimité qui a remplacé celui de la légalité, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la légalité, on est dans la légitimité.
Oui, c'est-à-dire que là, on a non seulement la représentation de la puissance, mais on a la performance de la puissance médiatique, politique, tout ça se mélange. Et c'est finalement cette performance qui va créer la légitimité. On inverse complètement les termes. À ce niveau-là, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que sur les réseaux sociaux, les personnes s'approprient ce récit, puisqu'ils vont recréer, ils vont faire circuler les vidéos, etc. Donc ça permet de créer comme une sorte de mouvement organique, qui finalement est très très contrôlé par Donald Trump et par les personnes qui sont autour de lui.
Oui, c'est ce que Gallagher Fenwick disait tout à l'heure en disant qu'il était aussi le diffuseur. On a dit acteur, spectateur, diffuseur, bien sûr, avec son réseau social Truth, celui de la vérité. Alors qu'on sait tous que la vérité n'est pas forcément à chaque tweet ou à chaque post qui est mis sur ce réseau social-là. Peut-être un commentaire, Gallagher Fenwick, sur ce changement de narratif de la légitimité qui gagne sur la légalité.
Bon, ce sont des notions qui n'existent pas chez Donald Trump. Tout à l'heure, Philippe Corbet citait... le New York Times de Tyler Page qui raconte, c'est complètement fascinant. Il faut comprendre qu'on est au milieu de la nuit. Il est un peu après 4h30 du matin en heure locale sur la côte Est. Et Donald Trump, justement, vient de publier cette information concernant la capture et l'exfiltration de Nicolas Maduro. Et le journaliste l'appelle. Ça sonne trois fois. Et Donald Trump, président des États-Unis, il décroche. Parce qu'une chose qu'il a comprise, et c'est pour ça que j'insistais sur le terme diffuseur, c'est qu'à force d'hyper-diffuser, en fait, il ne laisse plus la place à d'autres pour le faire. Et ce qui est fascinant pour moi dans le passage, dans la fresque qu'on est en train de dessiner, du moment Obama-Ben Laden à Trump-Maduro, c'est qu'en fait, le personnel a remplacé et effacé le solennel. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le lieu joue aussi un rôle dans ce récit. On est à Mar-a-Lago, on est dans le salon d'un palais hispano-mauresque, mais c'est la maison de Donald Trump. Alors que Barack Obama, ça se passe de manière très protocolaire.
Bien sûr.
Voilà, les drapeaux, l'arrière-plan, toute cette scénographie joue un rôle qui met en scène la puissance fédérale, celle des États-Unis, dans un moment de l'histoire avec un grand H. Alors que Donald Trump, en multipliant les coups, on est systématiquement face à des histoires avec des petits H qui s'enchaîne et qui l'utilise encore une fois pour occuper de la surface. Et toujours pour citer le New York Times, là il vient d'accorder un grand entretien où il a cette phrase qui est folle, effrayante et dont on a peine à mesurer les conséquences. Il dit, vous savez, je n'ai aucune limite à part ma propre moralité. Et ça, il est en train d'expliquer où se place la barre de sa puissance. C'est quoi la moralité de Donald Trump? Quelqu'un qui est soupçonné ou condamné sur des questions, justement... Quand vous parlez de moralité, vous appelez, vous tendez à une perche qui nous permet de nous pencher sur votre style de vie, vos choix, etc. Pas revenir sur les frasques personnelles, fiscales, etc. de Donald Trump. Mais ça secoue quand même sévèrement. Et ensuite, puisque vous m'interrogiez sur l'égalité et légitimité, il y a une autre, et vous en parliez, j'allais dire un autre terme qu'il faut introduire, celui de la vérité. Donald Trump, il a cette phrase... qui lui est, et c'est un personnage que Philippe Corbet connaît bien, dicté presque par l'un de ses mentors, ancien avocat, il dit « la vérité, c'est ce que je dis. La vérité, c'est ce que tu dis. La vérité, c'est ce que Philippe dit. » Donc la vérité, elle est plastique, elle est malléable, elle ne s'impose pas. Je peux la produire en cet instant même en vous disant « Aujourd'hui, je vous dis Nicolas Maduro, c'est un terroriste. Demain, je vous dis Nicolas Maduro, c'est un narcotrafiquant. Hier, j'avais raison et aujourd'hui, j'ai toujours raison. »
C'est pour ça que peut-être dans un instant, vous serez vraiment né aux États-Unis. Gallagher Fenwick, tout sous prétexte que je l'ai dit. Qu'est-ce qui lui a appris Roy Cohn, justement ? Expliquez-nous qui est Roy Cohn, peut-être pour nos auditeurs et auditrices à Donald Trump.
Alors, Roy Cohn, si j'ai écrit ce livre, c'est justement parce que j'avais écrit il y a 5 ans un livre sur Roy Cohn, qui était le mentor de Donald Trump, qui était un grand avocat américain, très célèbre aux États-Unis, qui a eu, je vais vous résumer en quelques secondes son parcours, c'est que c'était l'un des procureurs adjoints qui a fait condamner les époux Rosenberg à la peine capitale pour avoir, selon la justice américaine, transmis les secrets de la bombe nucléaire aux soviétiques au début des années 50. C'était l'adjoint de McCarthy au moment du procès de la chasse aux sorcières anticommunistes au début des années 50 également. Il a été ensuite, pendant des décennies, un des grands avocats du tout New York, avec des célébrités, mais aussi des gens puissants. Ça allait de la famille Ford à Estée Lauder. C'était une figure de la vie mondaine de New York, de Studio 54. C'était, par ailleurs, un homosexuel dans le placard, homophobe d'une certaine manière, enfin, pas d'une certaine manière, totalement homophobe, tout en ayant une vie sexuelle intense, et qui a repéré Donald Trump au milieu des années 70, qui était le fils d'un de ses clients, et qui a trouvé chez lui à la fois une forme de fascination, peut-être même une fascination sexuelle, en tout cas, même si c'est rien passé entre eux, mais il avait une forme de désir pour...
Il y a une attirance, en tout cas,
une attirance,
magnétisme,
de
une attirance.
Oui, mais aussi pour quelque chose de plus sincère, c'est qu'il a repéré chez lui quelque chose, une potentielle d'un personnage. C'est quelqu'un de grand, grand blond, avec une forme d'assurance un peu ridicule, mais au fond, il sort du lot. Et il l'aide à rentrer dans les affaires, et rentrer dans les affaires, c'est récupérer une subvention pour acheter un hôtel pourri à côté de la gare Grand Central à Manhattan, au moment où Manhattan est vraiment une zone de non-droit, en tout cas ce quartier-là. Et il va l'accompagner et lui, d'une certaine manière, l'amener vers d'autres choses. Il lui fait rencontrer les Reagan, par exemple.
Mais il lui donne aussi des conseils par rapport à la gestion des médias.
Oui, et parce
la
que...
La défaite. Mmh.
Oui.
Le rapport à la défaite, le rapport à la vérité, le rapport aux médias.
Pardon. Exactement, comme le disait Gallagher, l'important, ça n'est pas ce qui est vrai ou ce qui est faux, l'important, c'est le récit que tu racontes. Au fond, ne crois pas ceux qui vont dire que ça ne sera pas possible ou que ça n'est pas vrai. Au fond, c'est toi-même qui es maître de ton propre récit. Et il va, comme Roy Cohn l'a fait, c'est-à-dire que Essel Rosenberg n'était pas coupable d'avoir transmis, n'était pas une espionne. Il l'a fait exécuter. Dans le procès, enfin dans les procédures McCarthy, les gens qu'il visait, beaucoup d'entre eux n'avaient aucun lien avec des activités communistes. Mais c'est le récit qu'il imposait. Et il l'a fait pendant des décennies, il l'a fait avec Trump, et notamment, ce qu'il a donné à Trump, c'est une sorte d'habileté, des trucs, des techniques, j'essaye de raconter dans le livre, des armes de distraction, avec des codes, des tabloïds. Il fait quand même, en 1984, alors que donc Reagan est candidat pour sa réélection, il fait faire à Donald Trump, qui est totalement inconnu, une interview dans le Washington Post, pour que Donald Trump dise « Moi, je suis le meilleur négociateur du monde. » Il est vraiment inconnu. Hein. « Je suis le meilleur négociateur du monde. Il faut que le président Reagan m'envoie à Moscou et je vais négocier la fin, ou en tout cas un équilibre des armes nucléaires avec l'Union soviétique. » Et il faut quand même, d'une certaine manière, être assez audacieux, voire arrogant, mais ça a marché.
Alors justement, ça a marché. On le comprend là, depuis le début de cette émission, que sa force, sa puissance, c'est aussi les mots. La
oui,
manière
absolument.
Dont il arrive à faire la guerre des mots, à y croire tellement. Donc, la responsabilité des journalistes, elle est là, puisque nous, on amplifie les mots. On les reprend et on leur offre une caisse de résonance. Benjamin Delisle, et ça, je commence avec vous, puisque vous êtes au plus près du terrain en ce moment même à Washington. Comment on fait en tant que journaliste pour arriver à avoir cette distance quand même critique qui est nécessaire pour analyser les mots, ne pas forcément les reprendre? Et surtout, est-ce que ça peut être utile quand on voit qu'il y a autant d'inondations de la zone, comme on l'a dit?
Je pense que l'avantage du correspondant, c'est qu'on est tellement confronté aux mots de Donald Trump constamment, et juste qu'on arrive un peu à avoir ce recul sur les infos qui tombent pour essayer de les analyser. Et je pense que c'est le rôle des journalistes d'apporter du contexte, d'apporter l'historique, d'expliquer d'où viennent les différentes sorties, et justement d'essayer de ne pas tomber dans la sidération immédiate qui est souvent le problème de l'info en continu dans laquelle on se retrouve brassé, et de cette inondation qui a été théorisée par Steve Bannon avant Trump. Donc, quand on est sur le terrain, on se retrouve obligé de faire des choix. On ne peut pas suivre absolument tout ce que raconte Trump. Et en fait, on a l'impression de courir un peu après l'actualité et d'arriver toujours juste après avec une analyse qui va être un petit peu plus, qui va apporter un peu de recul, qui va essayer justement de donner les origines de d'une actualité. Par exemple, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup lu, beaucoup vu, vous l'avez dit en ouverture, mais toute cette dynamique autour du Venezuela, elle vient aussi de l'obsession d'un autre homme, pas Donald Trump, mais de Marco Rubio, qui rêve, en tant que fils d'exilé cubain, de faire tomber Maduro et le régime chaviste, puisqu'il pense qu'au travers du régime chaviste, c'est Cuba qui tombe ensuite. Et donc, c'est finalement la vengeance ultime, la vengeance de ses parents qui ont dû s'exiler. Enfin, il y a quelque chose de très personnel là-dedans. Et c'est ce qui est extrêmement dur avec la nouvelle administration Trump, c'est qu'il s'est entouré de gens qui fonctionnent aussi sur la vengeance, sur le ressentiment, qui ont des lubies. On peut parler de la lubie de Stephen Miller, son conseiller à l'immigration, qui est justement l'artisan de toute cette politique ultra-violente avec les raids de la police migratoire contre les migrants sans papiers et parfois contre certaines personnes qui ont des papiers. On peut parler aussi de la lubie de Roosevelt, qui est un peu l'artisan de la destruction de l'État fédéral. Et voilà, en fait, on se retrouve constamment à devoir arriver un tout petit peu après, avec un petit peu après les urgences de l'AFP aussi, qui vont toujours rebondir, et c'est leur rôle, sur les phrases choc de Donald Trump, pour apporter un petit peu de lumière, apporter un petit peu de contexte, et essayer de rendre ça plus intelligible pour les lecteurs.
Intéressant que vous parliez justement de lui, parce qu'on revient à la question de la personnalisation de la politique. Hein, quand il dit, et vous l'avez dit, Gallagher Fenwick, ma limite, c'est ma simple morale, on a l'impression qu'on est juste dans des affaires d'individus, d'hommes, qui ont en plus des égos surdimensionnés, et non pas dans les affaires du monde. On parle quand même d'événements qui ont des répercussions mondiales. Juste, Gallagher Fenwick, on a parlé justement de la limite de ces médias qui doivent prendre ou ne pas prendre ce récit qui leur est proposé à portée de main, un récit hollywoodien. Il y a peut-être aussi une responsabilité du spectateur. Enfin, le spectateur, il devient aussi, malgré lui, une sorte de complice de ce récit-là, en le regardant. Est-ce que le spectateur a aussi un rôle à jouer ?
Bien sûr qu'il a, c'est-à-dire comprendre qu'il est consommateur aussi et que la consommation, c'est un choix et qu'elle a des conséquences. Faire certains choix, c'est par définition éliminer certains canaux, refuser certains récits. Mais quand vous êtes pris dans ce flot qui vous inonde, vous avez ce sentiment, j'allais dire, de confusion qui est également voulue par Donald Trump, qui est instrumentalisé, qui participe de ce qu'il estime être son hyperpuissance et qu'on subit toutes et tous, que l'on soit spectateur ou consommateur dans une certaine mesure. Et je trouve assez génial l'expression, la phrase qui est utilisée par Roberto Saviano dans le courrier international justement de cette semaine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est journaliste d'investigation pour Corriere della Sera. Et il a cette phrase fantastique, je crois qu'il met vraiment le doigt sur quelque chose. Il dit, et je cite, « La véritable force politique de Donald Trump n'est pas la brutalité, ni le populisme, ni l'isolationnisme, c'est l'incohérence. Parce que, précise Saviano, la cohérence oblige la politique à une vérification constante des faits, des promesses, des conséquences. L'incohérence, au contraire, libère le pouvoir de toute responsabilité. Il, Donald Trump, ne doit rien prouver, car il ne demande pas de consentement rationnel, mais une confiance personnelle. Faites confiance au patron, pas aux institutions. »
Alors ça, c'est très intéressant, effectivement, l'orchestration de cette incohérence pour se dédouaner de toute responsabilité. Mais là encore, quel est le rôle de la presse américaine que vous connaissez bien, Philippe Corvet, prenons le New York Times ou le Washington Post, qui ont déjà été cités, pour pointer justement parfois cette incohérence, une incohérence qui peut être coupable aussi, parce que Donald Trump n'embarque pas que son propre destin, il embarque le destin d'une nation, voire même du monde.
Alors, d'abord, il y a un attachement à la, et je ne voudrais pas dire du mal de la presse française, puisque j'en suis moi-même un membre, mais il y a un attachement à la question de la vérité beaucoup plus forte dans la presse américaine que dans la presse française. C'est vraiment une valeur cardinale plus claire aux États-Unis qu'en France. Par exemple, le Washington Post, dans le premier mandat, avait lancé une stratégie qu'on appelait la stratégie des Pinocchio. C'est qu'au fond, il donnait des, un peu comme Télérama, mais des petits visages pour qualifier les films plus ou moins bons. Il y avait des Pinocchio avec plus ou moins de Pinocchio pour qualifier les mensonges de Trump. Il n'y avait pas que Trump, mais c'était lui qui en faisait le plus. À quoi ça a servi ? Mais vraiment, à quoi sert servi? C'était du bon journalisme. C'était un travail de fait. Il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Kessler qui faisait ça, qui était incroyablement solide. Est-ce que ça a eu un impact d'une manière ou d'une autre sur... est-ce que ça a éclairé les Américains, les électeurs américains? Probablement très très peu. Bon, il se trouve que le Washington Post a beaucoup baissé parce qu'il y a une reprise en main par Bezos, et beaucoup de bons journalistes sont partis, dont ce monsieur-là.
On a fait une émission d'ailleurs sur les caricaturistes de presse dans la fabrique de l'information aux États-Unis, qui sont aussi un signal de la liberté qui est de plus en plus compromise.
Mais le New York Times, c'est un journal formidable, c'est le meilleur journal du monde. Beaucoup de journaux, le Wall Street Journal, qui est un journal conservateur qui appartient à Murdoch, fait un boulot formidable de couverture de l'administration de Trump, sort beaucoup d'infos, y compris embarrassantes. Trump réclame des milliards de dollars. Mais pour Gallagher l'évoquait tout à l'heure, il faut revenir à ce que disait Steve Bannon dans le premier mandat, la stratégie. Il disait, Steve Bannon, les vrais ennemis, ce ne sont pas les démocrates, ce sont les médias. Et pour les annihiler, d'une certaine manière, il faut, je le cite, inonder la zone de merde pour que les médias, et donc derrière les Américains, se noient. Et en fait, inonder la zone de merde, c'est-à-dire balancer toujours des choses qui fait qu'on ne peut pas fixer son attention plus de quelques heures, ou parfois quelques minutes, ou quelques jours, sur un sujet. Je prends un exemple sur le Venezuela. Il y a moins d'une semaine, l'homme le plus puissant du monde a fait arrêter un chef d'État en exercice. Quoi qu'on pense de Maduro, et même si sa légitimité était évidemment contestable. Il a fait arrêter Maduro. De quoi parle-t-on depuis une semaine? Du Groenland. Ça n'est pas le même sujet. Demain matin, l'armée américaine ne va pas envahir le Groenland. Nous parlons du Groenland et nous le couvrons. Nous avons envoyé, nous, à France Inter, une journaliste, Ajra Mohamed, qui est au Groenland, qui fait des reportages. Et il faut couvrir ce qui se passe. Et on a invité des responsables groenlandais. Et donc, il faut en parler. Et en même temps, quand on en parle, on ne parle pas de ce qui s'est passé il y a une semaine. C'est-à-dire de cette opération au Venezuela. Vous voyez la capacité permanente de Donald Trump, d'une certaine manière, de nous envoyer des choses qui, d'une certaine manière, nous empêchent de nous fixer sur ce qui est parfois l'essentiel.
Oui, mais juste Philippe Corbet, je reviens juste un instant, mais vous avez été directeur d'une chaîne d'information continue comme BFM TV, aujourd'hui la rédaction de France Inter, vous êtes conscient de tout cela, et pour autant, j'ai l'impression que c'est une conscience stérile.
Oui. Stérile, vous avez raison de pointer ce sujet. Mais 100 fois, je me souviens très bien, et je le raconte dans le livre, j'étais à BFM le jour où il a été inculpé à Miami. C'est l'une des affaires pour laquelle il était inculpé. C'est l'affaire, il avait conservé des documents secret défense dans une salle de bain à Mar-a-Lago. Il est inculpé à Miami. Et il y a donc des hélicoptères, des chaînes de télévision locale de Miami qui survolent le convoi. Il repart après l'inculpation. Et là, comme je connais un peu Miami, je reconnais qu'il sort du chemin qui mène vers l'aéroport et je comprends qu'il va à Little Havana. Donc dans le quartier cubain. Il va dans un restaurant Little Havana qui s'appelle le Versailles, qui est un restaurant cubain. Et là, formidable. Enfin, formidable. Je suis épaté.
Mais voilà.
Je suis épaté parce que là, en fait, il y a des caméras qui n'étaient pas les caméras de télévision. Il y a des caméras de ses partisans dans le restaurant qui l'attendent, avec des Cubains qui l'attendent là, et qui l'accueillent, et qui prient avec lui, et qui, en fait, installe l'image en direct, sur toutes les chaînes en direct, que Donald Trump, d'une certaine manière, est victime de la justice, comme ces Cubains américains, ces Cubains de Miami, avaient été victimes du régime castriste. Et là, tout ça se joue en direct à la télévision. Et le présentateur de CNN, Jack Tapper, qui est en direct, dit de façon assez énervée à l'antenne, en direct, il demande à ses producteurs d'arrêter cette image en direct. Parce qu'en fait, il voit ce qui est en train de se passer. C'est que Donald Trump, ancien président inculpé, est en train de prendre la main sur le récit médiatique en direct et de détourner l'attention. Et ça marchait.
Oui, Gallagher Fenwick, rapidement.
Non, on est en fait en train de tourner autour d'une notion qui est devenue assez matricielle dans la pensée de l'extrême droite et extrêmement puissante, qui est l'idée de la censure. Et ça, c'est une question que toutes les rédactions doivent se poser. C'est-à-dire, si je ne diffuse pas ce par quoi nous sommes inondés depuis la Maison-Blanche, est-ce que je censure de l'information? Si je ne diffuse pas des discours en direct de Donald Trump, dont on sait qu'il ment régulièrement, factuellement, objectivement, est-ce que je censure? Ou alors est-ce que c'est ça le journalisme? C'est-à-dire de faire des choix et donc de se priver parfois d'une parole parce qu'on ne peut pas contextualiser en direct. Si on ouvre notre micro et qu'on confie un espace, qu'on sanctuarise un espace à l'intérieur duquel on laisse le président s'exprimer sans contradiction. Est-ce que c'est ça du journalisme? Est-ce qu'à l'inverse, si je ne le fais pas, que j'attends qu'il ait parlé et que derrière, je choisis des morceaux et j'explique ça c'est vrai, soit c'est faux, d'abord je m'érige en liberté des vérités et des mensonges. Et ensuite, certains vont vous dire « mais vous censurez parce que vous êtes un média, donc vous êtes de gauche. Est-ce que vous faisiez la même chose avec Barack Obama ?» Barack Obama a menti sur Guantanamo, sur l'utilisation des drones, sur le nombre d'expulsions qu'il a pratiquées. Donc il y a toujours ce piège du deux poids deux mesures. Et juste une toute dernière chose, quand on parle des médias, de qui est-ce que vous êtes en train de parler ? Comment vous définissez ce terme aujourd'hui ? Vous imaginez le spectre ? Il y a des gens qui n'ont jamais écouté France Culture, qui ont d'autres sources d'informations. Peut-être que moi, je n'ai jamais écouté. Et donc, quand vous dites médias, vous n'entendez pas la même chose que ces personnes. Et je pense, on citait le Wall Street Journal, le Washington Post, etc. Aujourd'hui, certains de ceux que j'écoute, qui font un travail, à mon sens, éditorial formidable, sont des comiques. Qui bossent tard le soir et qui font des émissions sur un ton un peu, j'allais dire, léger, mais qui sont parmi les derniers à dire des choses très dures, très vraies et avec des conséquences énormes pour la démocratie, je crois, américaine.
Le président entame son cinquième jour à la tête du Venezuela, son activité parallèle. Et si vous craignez qu'il s'agisse d'une tentative flagrante de s'enrichir, le président Trump tient à vous informer. Il a écrit « J'ai le plaisir d'annoncer que les autorités intérimaires vénézuéliennes vont livrer entre 30 et 50 millions de barils de pétrole de haute qualité, sous sanction aux États-Unis d'Amérique. Ce pétrole sera vendu au prix du marché et cet argent sera sous mon contrôle. Signé Didi J. Trump. »
France Culture, la fabrique de l'information, François Celtiel.
La transition était trop belle, Gallagher Fenwick, pour ne pas entendre justement un comique Jimmy Kimmel. Et on a l'impression, et peut-être que Benjamin Delisle va nous contredire, mais que la portée critique, effectivement, du côté de la France aux États-Unis se passe du côté des comiques américains. On aurait pu aussi citer CBS, une chaîne de télévision qui opère quand même un virage. CBS,
et qui vire son comique de fin de soirée.
Qui vire son comique de fin de soirée. C'est 60 Minutes, c'est des reportages. On en a vu certains qui ont été notamment censurés sur la question du Venezuela. Benjamin Delisle, quand vous qui êtes là-bas, est-ce que vous sentez ça ? Est-ce qu'il y a une perte justement de cette liberté ? Est-ce que c'était une vue française ? J'entendais Philippe Corbet dire justement que la presse américaine était très attachée aussi à la notion de vérité. Qu'en pensez-vous ?
Moi, je suis assez d'accord avec cette notion-là. Et il y a une grande différence ici entre la presse anglo-saxonne qui est effectivement plus factuelle et la presse française qui a une tendance aussi plus éditorialisante. Qui, dans le moment actuel, paradoxalement, j'ai l'impression, nous donne plus de liberté, nous, en tant que presse française, pour donner un avis sur ce qui se passe et apporter justement cette dimension analytique et de recul dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec les comiques américains, on parlait de Jimmy Kimmel, il y a aussi Jon Stewart qui a eu une très bonne chronique en début de semaine sur le Venezuela, où il pointait justement l'espèce de folie de Trump autour de son discours sur le pétrole, alors que tous ses conseillers essayent de ramener un semblant de vernis, de démocratie par-dessus, alors que lui ne cesse de répéter « et on va s'emparer du pétrole, et on va s'emparer du pétrole ». Et justement, ils ont cette facilité à, via l'humour, rentrer un petit peu plus au fond du sujet, là où la presse traditionnelle, en faisant un boulot par ailleurs formidable, se retrouve, comme on disait tout à l'heure, complètement inondé de fact-checking, finalement, de vérification des mensonges qui sont beaucoup trop nombreux pour être tous vérifiés. Et ils apportent quelque chose qui donne une dimension analytique supplémentaire et qui les rend d'autant plus menaçants, je pense, pour l'administration Trump, qu'elles essayent de les faire progressivement tomber. Donc, il y a effectivement Stephen Colbert qui va voir son émission se terminer cette année, donc sur CBS. On a Jimmy Kimmel qui a été rapidement sorti de l'antenne pour les commentaires qu'il avait eus sur l'assassinat de Charlie Kirk, qui est devenu un peu le martyr de l'extrême droite américaine en septembre. Et on se demande ce qui va se passer pour finalement tous les autres humoristes américains qui se retrouvent menacés, notamment par l'espèce de jeu de fusion-acquisition de grandes corporations médiatiques. Par exemple, je vais citer juste ce qui s'est passé entre Netflix qui essaye de racheter Warner Bros et Paramount qui est contrôlé par la famille Ellison, très proche de Trump, qui essaye de surenchérir pour obtenir Warner Bros. Et en fait, on voit que Donald Trump, il est intéressé par ça parce qu'il pense que si son ami Ellison récupère Warner Bros et donc au travers de Warner Bros CNN, une chaîne qu'il estime comme étant une chaîne d'opposition, il va pouvoir encore plus façonner le discours médiatique qu'il veut faire entendre.
Voilà, on voit effectivement qu'il y a de toute façon une mainmise de la technologie, hein, des entreprises de technologie sur les médias, sur le divertissement, même si ça n'a pas grand-chose à voir, les Oscars qui seront prochainement diffusés sur YouTube. Donc on voit que finalement, quand on sait qu'on a un techno-pouvoir aujourd'hui qui se met en place aux États-Unis d'une manière outrancière, on a encore vu réapparaître d'ailleurs Elon Musk à l'occasion de Mar-a-Lago, on voit que tout cela, encore une fois, c'est une manière d'avoir la mainmise. Sarah Rodriguez-Louet, tout à l'heure, Gallagher-Fenwick parlait de c'est quoi un média. Vous qui travaillez beaucoup sur les réseaux sociaux, vous qui travaillez beaucoup sur cette aussi, pour nous, ce qu'on pourrait encore appeler des nouveaux émetteurs de contenu, les podcasteurs qui sont très présents, on voit qu'il y a aussi toute une sphère MAGA qui est sur ces réseaux sociaux, qui parfois d'ailleurs peut rentrer en position avec, encore une, on va dire, le premier niveau classique conservateur trumpien qui était un peu l'époque de la télévision.
Oui, tout à fait. On voit un recentrage sur les réseaux sociaux et même ces photos, les vidéos ont ce format court qui est calibré pour avoir le maximum d'impact sur les différents réseaux sociaux. Alors, à ce niveau-là, ce qui fait que les gens vont pouvoir tout simplement se réapproprier. Elon Musk a lui-même fait la promotion de son intelligence artificielle Grok à l'occasion de ses diffusions de photographies de Maduro. Et ça fait qu'il a encouragé donc le détournement, il a encouragé aussi indirectement d'autres photographies qui vont cette fois imiter la réalité et qui vont pouvoir cette fois inonder aussi les réseaux sociaux, inonder la Maison-Blanche aussi, puisque la Maison-Blanche a repris ces médias, et qui vont déplacer complètement le sens du politique. Puisque les gens qui vont être à l'origine de ces nouvelles créations ne sont pas forcément des personnes pro-Trump. Ils vont faire ça aussi pour se mettre en valeur eux-mêmes. Mmh. On est donc dans une relation qui n'est plus de l'information, qui n'est plus de l'idéologie, mais qui est vraiment proprement du spectacle. On est dans la transaction ici, puisque le but, c'est de la monétisation, la visibilité de personnes individuelles qui veulent saisir ce moment pour eux-mêmes se mettre en valeur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump lui-même donc, va parler de pétrole. Il ne parle aucunement de démocratie, d'idéologie, de mots. Enfin, il a sa propre morale, il va dire son terme moral, mais on est dans l'intérêt ici, dans l'intérêt transactionnel, commercial. Eh bien, on retrouve la même chose dans la diffusion et dans le traitement de cette information, en fait, Maduro. Et ce parallèle est vraiment frappant.
Oui, vous avez raison de parler de faille narcissique, puisqu'on sait très bien que c'est comme ça que les réseaux sociaux fonctionnent. Et c'est intéressant de voir qu'on peut reprendre justement ces contenus-là, pas forcément parce qu'on embrasse l'idéologie, juste parce que ce sont des leviers intéressants justement pour combler notre propre narcissisme. Mmh. Et on voit que c'est pensé comme tel, c'est presque du clé en main pour qu'on soit tous indirectement devenus des ambassadeurs. Et peut-être un mot aussi sur l'usage de l'intelligence artificielle par Donald Trump. C'est-à-dire que vous avez parlé de fake news qui sont relayées par le compte de la Maison-Blanche, mais lui a été le premier aussi à utiliser l'intelligence artificielle. On parle depuis tout à l'heure sur inonder. On se rappelle de son montage où il était dans un avion en train de littéralement inonder la population qui manifestait contre lui il y a quelques mois.
Pour les manifestations No Kings, oui.
Exactement. Mais c'est-à-dire que l'IA est aussi un usage complètement décomplexé. Là encore, ce qui compte, ce n'est pas la vérité.
Oui, et puis un usage ludique parce qu'il crée du divertissement. C'est la stratégie de mémification, c'est-à-dire les mèmes, les memes, c'est-à-dire ces images plus ou moins fines, enfin en tout cas plus ou moins parfois grossières, créées, y compris par des gens qui ne sont pas dans l'équipe Trump ou par Trump lui-même, mais par des soutiens, des gens qui plaisantent et qui créent des petites vidéos sur TikTok ou sur Twitter, et qui sont, si elles sont efficaces, drôles, relayées, et parfois relayées par le président lui-même. C'est aussi pour ça que je mets en couverture une image de Trump en Superman, enfin en Super Trump, puisqu'il a beaucoup joué à travers ces codes-là des super-héros depuis des années, et il y a d'infinies images où il est représenté en Superman. Il joue avec ces codes des super-héros, uniquement par des images. C'est évidemment... On pourrait se dire que c'est secondaire, c'est un peu ridicule et que ça n'est pas très grave et qu'au fond, c'est juste l'expression de son propre narcissisme. Mais en fait, depuis des années, quand vous êtes abonné à beaucoup de comptes américains, vous voyez ces choses-là. Il y a aussi ces représentations en roi, ces représentations en empereur, ces représentations en homme viril, en beauté physique virile hollywoodienne. Et ça, ça n'est pas qu'accessoire parce que ça marque au fond notre rétine et la manière dont on le perçoit. Je raconte dans le livre, par exemple, comment est-ce qu'il avait imaginé mettre en scène son retour de l'hôpital quand il avait le Covid pendant la campagne en 2020. Il imaginait donc ce qu'on a vu, c'est un hélicoptère au soleil couchant qui atterrit sur la Maison Blanche, soleil d'été indien. Il voulait remonter jusqu'au balcon Truman de la Maison Blanche et là se retourner et arracher sa chemise où il y aurait eu un super Trump sur son t-shirt. Et finalement, ses conseillers l'ont convaincu de ne pas aller jusque-là, mais il a fait toute cette scène en arrachant son masque et on était à quelques jours de l'élection. Ouais. J'ai vaincu la mort. C'était ça son message.
Ouais, effectivement, c'est très clair dans votre livre et je renvoie justement les spectateurs. Avant de donner la parole à Benjamin Delim pour parler enfin de cette presse vénézuélienne, juste vous souhaitiez réagir, Sarah Rodriguez-Louette.
Oui, c'est-à-dire qu'ici, le public n'est plus seulement spectateur, il est producteur lui-même. Absolument. Donc on atteint une nouvelle étape dans la fabrique du consentement. Avec les réseaux sociaux, on sait que le fait de s'engager, de partager, permet de motiver le biais de confirmation. Mais ici, étant donné que c'est produit, ça permet de créer donc une nouvelle réalité soi-même. Et en même temps, d'être toujours dans cette logique, non plus d'engagement civique, non plus d'engagement politique, mais vraiment dans l'engagement du plaisir, de l'éphémère, du spectacle, du divertissement. Et cette transition de l'engagement, cette post-idéologie, pour arriver justement à cette mise en place de l'ego, cette mise en place de l'émotion, est très inquiétante du point de vue démocratique. Et c'est ce qui permet d'aboutir finalement ce processus de Donald Trump, d'inonder l'attention, de prendre le temps de cerveau disponible, comme on dit. Là, on arrive à une nouvelle étape avec cette intelligence artificielle. Et tout ce traitement Maduro, finalement, encouragé par Elon Musk très, très largement, légitime non seulement un nouveau cadre moral, entre guillemets, ou immoral, mais ça légitime aussi finalement l'intelligence artificielle aussi sur les réseaux.
Exactement, cette intelligence artificielle qui a été largement employée pour instrumentaliser la population vénézuélienne, lui faire dire à peu près tout et son contraire. Et là, on voit Benjamin Delisle, je le rappelle, vous avez été 2 ans correspondant à Caracas pour Libération. La difficulté aujourd'hui, même des médias français, hein, de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous pouvez nous faire un état justement des médias présents au Venezuela, de la liberté ou non des journalistes? Qu'en est-il?
Alors, si on prend juste la presse française, typiquement, en ce moment, il y a une correspondante permanente qui est la correspondante de RFI France 24 sur place, francophone. Elle est la seule à avoir eu un visa permanent. Au même titre que quand j'y étais entre 2018 et 2020, j'étais le seul francophone. Et vous avez tout un tas d'équipes qui ont été envoyées, notamment en Colombie, pour tenter de passer la frontière. Beaucoup qui ont essayé de la passer, qui généralement n'ont pas passé tellement plus d'une journée, si ce n'est quelques heures avant d'être intercepté et expulsé, parce que le Venezuela ne donne pas de visa en ce moment à la presse étrangère pour venir couvrir ce qui s'y passe. Et il y a une longue tradition d'opacité sur justement les visas presse, puisque au même titre que Donald Trump essaie de contrôler le récit aux États-Unis, très longtemps avant lui, Chavez puis Maduro ont imposé leur récit médiatique au Venezuela de manière très dure. Donc il s'agit d'un contrôle total des visas étrangers qui généralement se libèrent qu'au moment des élections, parce que vu qu'ils contrôlaient le récit à ce moment-là, ils voulaient justement montrer l'espèce de toute-puissance du régime bolivarien qui remportait année après année les élections, voire les volets comme ce fut le cas en juillet 2024. Et progressivement, en fait, on a vu d'abord Chavez comprendre l'importance de polariser les médias d'expulser en fait tous les médias qui pouvaient être considérés comme gênants, voire d'opposition. Alors, ça a commencé par la création d'une chaîne d'information en continu, Télésur, qui s'est ensuite étendue à tout le continent latino-américain, qui est une chaîne très marquée à gauche, mais dans cette gauche anti-impérialiste qui était celle de Hugo Chavez. Et ensuite, ils ont juste essayé de mettre des bâtons dans les roues de tous les médias qui ne se soumettaient pas à leur narratif, soit en plaçant à leur tête des caciques du régime qui finalement ont restructuré les médias, comme ce fut le cas par exemple d'El Universal, qui est un des grands quotidiens vénézuéliens, ou alors en privant d'autres grands médias de toutes leurs ressources, soit en coupant pour des raisons obscures leur signal quand il s'agit de télévision, soit en les empêchant d'imprimer leur journal. Comme
vous parliez du papier, justement.
Qui est un peu le monde vénézuélien.
Vous parliez justement de la manière dont il a mis la main sur le papier, qui était très intéressant.
C'est ça, en fait, ils ont nationalisé l'entreprise qui distribuait le papier journal pour pouvoir en fait contrôler à qui est-ce qui permettait d'imprimer ou de ne pas imprimer leur papier. Ce qui a poussé, par exemple, Elle Nationale à aller chercher son papier en Argentine à un moment avant de finalement en fait se retrouver complètement bloqué. Et aujourd'hui, tous les médias qui ont été empêchés de travailler au Venezuela travaillent depuis Miami, depuis Bogota, voire depuis Madrid, puisqu'ils n'ont plus les moyens de travailler au Venezuela. Et le résultat de ça, c'est qu'il y a un contrôle total de l'information au Venezuela par le gouvernement. Et là, c'est marrant parce qu'on peut faire un parallèle entre la parole de Maduro et la parole de Trump. Trump inonde l'information américaine, là où Maduro, en fait, est le seul, était le seul à pouvoir parler dans les médias. Un journal télévisuel de VTV, la chaîne publique d'État, c'est le journaliste qui, en fait, lance Maduro, et donc sur tel ou tel sujet en prenant des conférences de presse, voire en l'appelant directement, et ensuite qui termine son journal pour finalement lancer une émission qui est présentée par un des ministres de Maduro, notamment le ministre de l'Intérieur, qui a une émission hebdomadaire qui dure des heures. Et donc, ils ont aussi compris cette nécessité d'avoir un contrôle total. Et donc, la population vénézuélienne n'a aucune autre information radio, télévisuelle ou écrite que celle qui est proposée par le gouvernement. Pour s'informer, elle est obligée de passer soit par des VPN pour
changer la localisation pour pouvoir justement avoir accès à des médias, ou évidemment aller sur les réseaux sociaux avec toutes les problématiques de détournement et de confusion que nous venons d'évoquer. On poursuit avec vous, Mélanie Chenoir de Courrier International, pour aller voir ce qui se passe un peu dans d'autres pays par rapport à ce choc mondial. Quelles sont les réactions les plus inattendues que vous avez relevées dans la presse étrangère ?
Alors, après l'effet de sidération auquel personne n'a échappé, les journalistes, éditorialistes et chroniqueurs du monde entier ont réfléchi aux messages envoyés par Trump aux autres dirigeants des grandes puissances, notamment, en particulier la Chine et la Russie. Dès le lendemain de l'opération, Masha Gessen, qui est une plume renommée, écrivait par exemple dans les pages opinion du New York Times que si Trump s'autorise à prendre le contrôle du Venezuela et pourquoi pas ensuite du Groenland, de Cuba ou de la Colombie, alors, je cite, « cela permettra à Poutine de s'emparer d'autant de territoires qu'il le souhaite en Europe, tandis que Xi Jinping peut assurément s'emparer de Taïwan ». Alors ça, c'est une lecture intéressante de cette loi du plus fort. Et pourtant, du côté des principaux intéressés, les réactions dans la presse ont été plus mesurées et plus complexes que ce qu'on aurait pu imaginer. En Chine, par exemple, le Global Times, qui est le porte-voix du Parti communiste chinois et qui propose donc une version anglophone de ses articles à destination de l'étranger, condamne vivement l'opération. Donc, je vais vous lire un passage de l'article d'opinion que Courrier International a traduit et qui a de quoi surprendre. On lit « Imaginez un peu, si une grande puissance peut, sur la base de sa seule force, contourner toutes les règles et recourir à la violence armée contre un autre pays, quelle nation peut alors réellement assurer sa sécurité ?»
Alors, comment on explique qu'un journal chinois proche du pouvoir s'insurge de cette manière alors qu'on connaît les ambitions chinoises à propos de Taïwan notamment ?
Eh bien, on peut rappeler déjà que le pouvoir chinois ne considère pas Taïwan comme un État. Plus fermement que jamais, la Chine prône même la politique dite d'une seule Chine, c'est-à-dire de réunification avec l'île sur laquelle elle revendique sa souveraineté. Donc, en jouant sur les mots, le Global Times pourrait condamner l'opération au Venezuela d'une main et de l'autre justifier simultanément une opération militaire chinoise à Taïwan, même si c'est un peu un jeu d'équilibriste. Ensuite, la Chine défend ici ses intérêts économiques. Le Venezuela était l'un de ses partenaires privilégiés en Amérique latine. Idem pour la Russie d'ailleurs, qui est restée elle aussi plutôt sur la réserve. Et enfin, la dernière chose, c'est que pour le Global Times, la véritable ennemie, c'est ce que le média chinois appelle l'hégémonie américaine. Plus Washington étend sa sphère d'influence, plus il sera difficile pour Pékin, évidemment, d'augmenter sa part du gâteau, notamment à Taïwan, où il est difficile de prédire quelle serait la réaction de Trump en cas d'invasion chinoise.
Alors l'autre territoire convoité dont on parle beaucoup pour finir ces jours-ci, Mélanie, c'est le Groenland. Vu les déclarations répétées de Donald Trump, on imagine que ça provoque pas mal de réactions dans la presse danoise.
Oui, alors on suit ça de très près grâce au travail de notre journaliste spécialiste de la Scandinavie, Antoine Jacob. Et il y a cet aspect que moi je trouve particulièrement intéressant, c'est que les journaux du Danemark se retrouvent dans la position invraisemblable de devoir se justifier. Dimanche dernier, à bord de l'avion présidentiel, Trump s'est moqué, je cite, « Savez-vous ce que le Danemark a fait récemment pour augmenter la sécurité au Groenland ? Ils ont ajouté un traîneau à chiens. » Et il en conclut donc que le Groenland doit devenir américain au nom de la sécurité nationale parce que, selon lui, plein de navires chinois et russes rôdent au large. Donc face à cela, le grand quotidien danois Politiken a voulu rectifier et rappeler la chose suivante. Les États-Unis ont eux-mêmes réduit leurs efforts au Groenland en fermant une base militaire après l'autre et en rapatriant des milliers de soldats. Donc, en somme, ce que font remarquer les journaux danois, à l'unisson d'ailleurs de la première ministre Mette Frederiksen, c'est que si les États-Unis étaient vraiment inquiets de la sécurité au Groenland, ils auraient tout à fait pu, et même dû, y remédier par eux-mêmes. Et quoi qu'il en soit, cet argument sécuritaire risque d'être vite oublié, tout comme celui du narcotrafic au Venezuela. Et en attendant, les menaces de Trump ont déjà des conséquences concrètes. En fait, elles créent des dissensions. À Nuuk, la capitale du Groenland, des accusations de néocolonialisme refont surface à l'égard du royaume danois. Le parti indépendantiste Naleraq a même proposé de mener un dialogue direct avec Washington, sans les autorités danoises donc. Trump, ce que ça signifie, c'est qu'il a déjà réussi une première étape, diviser pour mieux régner.
Merci beaucoup Mélanie Chounorin, chronique à retrouver sur le site de Radio France et également chez Courrier International. Une réaction peut-être, Gallagher Fenwick, avec ce qu'on vient d'entendre, encore une fois, toujours cette même stratégie.
Celle de diviser et distraire également. Et depuis tout à l'heure, on a alterné, on a mélangé, je crois, les termes distraction et divertissement. Mmh. Et ça me faisait réagir parce que ce sont deux notions qui, à mon sens, ne sont pas synonymes. En fait, la distraction, elle détourne, le divertissement, il détend. La distraction, elle est subie, le divertissement, il est choisi. Donald Trump utilise la distraction pour justement occuper de l'espace, produire de la désinformation ou de la mésinformation. On peut tout à fait s'informer en étant diverti. Tout à l'heure, Benjamin Delisle, depuis Washington, parlait de ce formidable travail qui est fait par John Stewart et d'autres sur les parallèles entre l'Irak 2003 et le Venezuela. À l'époque, le fait qu'il faisait au moins semblant d'être là-bas pour la démocratie, mais qu'aujourd'hui ça a disparu, on est totalement sur le pétrole. Et du côté de la distraction et donc de Donald Trump, il y a, je pense que vous la connaissez, cette loi qui me vient souvent à l'esprit, en écho à cette idée d'inonder la zone avec, je cite, de la merde, comme le disait Bannon, c'est la loi de Brandolini, cet informaticien italien qui a théorisé la chose suivante, c'est très simple. En fait, la quantité d'énergie que vous déployez pour produire une connerie, un mensonge, de la désinformation, est très largement inférieure à celle qui est nécessaire pour réfuter cette connerie. Donc vous inondez avec des mensonges, il y en aura qui seront viralisés, il y en aura qui passeront à la trappe, mais d'abord il faut que des autorités ou des entités se mettent face à cela, qu'elles recrutent, qu'elles aient un budget, qu'elles identifient, qu'elles réfutent, ce qui nécessite de faire un travail avec des sources et ensuite de le produire. Tout à l'heure, Philippe Corbet faisait référence au travail de Kessler dans Le Poste. Je vous le dis, en tant que consommateur et lecteur, ce sont des articles souvent qui sont chiant. Alors qu'écouter Donald Trump raconter n'importe quoi, c'est pas, ça ne vous informe pas, mais ça vous distrait.
Oui, c'est la
ça
fascination
ne vous détend pas, en revanche.
C'est la fascination dont on parlait. Et c'est dans cela, bon, c'est pas dans cette émission, malheureusement, qu'on arrivera tout de suite à trouver les solutions pour s'émanciper de ces recettes, de ces ficelles qui sont si bien martelées. Et vous l'avez raconté dans votre ouvrage, Philippe Corbet, vous remontez aux origines pour essayer de voir comment il a appris tout ça. Puisqu'on parlait du début de votre ouvrage, moi j'aimerais dire un mot sur la fin de cet ouvrage. On comprend, par un petit dialogue, je laisserai les lecteurs aller voir par eux-mêmes, qu'il y a une inquiétude auprès de gens que vous connaissez aux États-Unis. Ils veulent quitter les États-Unis de peur de ce régime devenu presque une dictature. Et on comprend à un moment donné que finalement, qui pourra empêcher Donald Trump de quitter le pouvoir quand bien même c'est la prochaine élection, il la perd. S'il perd cette prochaine élection. Moi, j'ai compris dans votre livre, en tout cas, que cette inquiétude était là, qu'on a finalement presque eu un demi-dictateur là qui a arrêté un dictateur. Mais si finalement il perd la prochaine élection, qui pourra vraiment l'empêcher de quitter le pouvoir ?
C'est bien ça l'essentiel, c'est-à-dire que pendant qu'il nous distrait, ou il distrait notre attention avec des choses diverses et variées, l'essentiel est là. C'est-à-dire qu'est-ce que le régime que connaissent aujourd'hui les États-Unis. Moi, je ne parle pas de dictature et je fais juste état d'une conversation avec un de mes meilleurs amis qui est américain et qui se demande si, au fond, il peut faire grandir son fils qui a 3 ans dans ce pays-là. C'est une marche vers l'autoritarisme. Ils n'y sont pas là aujourd'hui. C'est une démocratie imparfaite, comme l'ont toujours été les États-Unis. Et il va se jouer dans les 3 ans qui viennent une définition de qu'est-ce que c'est ce pays. Et ça va se jouer devant les cours de justice, ça va se jouer dans la Cour suprême. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais c'est ça l'essentiel. Quels sont les pouvoirs constitutionnels du président des États-Unis quand Donald Trump est le président des États-Unis? Et c'est ça la question qui devrait concentrer notre attention, ce qui se passe dans les cours de justice, tout le reste, finalement, je dirais pas, n'est pas accessoire, mais ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. Quel est le régime politique de ce pays?
Quel est le régime politique de ce pays? Quel est le régime politique maintenant au Venezuela aussi? On pourrait se poser cette question-là, parce que ça y est, il a fait un coup d'éclat, il est parti, puis ensuite, ça continue, d'où l'intérêt de continuer à couvrir cette question-là, et puis de prendre le temps, comme on a essayé de le faire cet après-midi, pour analyser cet homme qui maîtrise si bien les armes du spectacle, et qui en fait même justement une arme de distraction massive. C'est le titre de votre livre, Philippe Corbet. Je vous remercie, Gallagher Fenwick. On peut continuer à vous voir, à vous entendre, notamment sur LCI, dans de nombreux plateaux. Sarah Rodriguez Louette, on peut toujours poursuivre justement la lecture de vos travaux, et puis Benjamin Delisle, suivre vos reportages qui sont conçus directement depuis Washington dans les pages de Libération. Je remercie à la réalisation de cette émission Sorge Leroy, et à la préparation, comme d'habitude, Joséphine Reinhardt.